Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver pour évoquer un événement extrêmement important dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, puisqu'il s'agit de la guerre de sécession, une guerre débutée en 1861 qui s'est terminée en 1865. 4 ans de guerre qui ont largement contribué à façonner l'histoire contemporaine des États-Unis. Pour parler de la guerre de sécession, je reçois cette semaine Vincent Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous travaillez sur l'histoire militaire, vous êtes membre de la rédaction du magazine Guerre et Histoire, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la guerre de sécession, et notamment un ouvrage récent qui est paru chez Passé Composé, intitulé « La guerre de sécession, la grande guerre américaine ». Première question, Vincent Bernard, la guerre de sécession, ça c'est le terme français. Aux États-Unis, on parle de « civil war », la guerre civile. Pourquoi cette différence? Est-ce qu'on n'est pas davantage dans une guerre civile que dans une guerre de sécession à proprement parler?
Alors, le nom même de la guerre, c'est en réalité bien plus compliqué que ça. Ce conflit a eu de très nombreuses dénominations, à la fois aux États-Unis et ailleurs. On parlait beaucoup au Nord, au moment de la guerre et immédiatement après, de la guerre de la rébellion, par exemple. Et au Sud, on lui a donné divers noms, allant jusqu'à la guerre de l'agression du Nord, guerre entre les États, ou divers autres noms. Et guerre de sécession, c'est celui qui est utilisé en Europe depuis l'origine, en fait, depuis l'époque même. Aujourd'hui, c'est vrai que le terme de guerre civile fait à peu près consensus aux États-Unis. Moi, je lui préfère à titre personnel celui de guerre de sécession, qui est plus descriptif, et je trouve que vu d'Europe, c'est intéressant, parce que ce qui se joue aussi dans ce conflit, alors ça ne veut pas dire que le terme de guerre civile est impropre, ça veut dire simplement que ce qui se joue, c'est le devenir des États-Unis finalement, qui est une nation en gestation à cette époque, qui aurait très bien pu être partitionnée en deux éléments, comme certains empires ont été détruits à travers l'histoire, en Europe également. Et donc ce terme de guerre de sécession finalement montre bien, décrit bien la situation, une partie du pays, pour quelles qu'en soient les raisons, cherche à rompre les liens avec l'autre partie du pays pour être indépendant. Le terme de guerre civile est également exact, mais il induit que les États-Unis sont une nation totalement pérenne qui ne pouvait pas être dissoute.
Parce que les États-Unis ont 80 ans à l'époque. Ils ont été officiellement, un peu moins d'ailleurs, puisqu'ils ont été officiellement créés en 1783. Donc vous avez raison d'insister sur ce fait que c'est un très jeune pays.
Absolument.
Alors, quelles sont les causes, justement, de la guerre de sécession? Vu de France, on pense à l'esclavage, et souvent, c'est présenté comme étant l'opposition d'États du Nord anti-esclavagistes face aux États du Sud qui sont favorables à l'esclavage. Est-ce que l'esclavage a joué, la question de l'esclavage, de l'émancipation des esclaves a joué un rôle important dans la déclaration de cette guerre, ou est-ce qu'il y a d'autres causes?
Alors, il y a d'autres causes. On a parfois essayé de nier la centralité de l'esclavage dans la crise que parcourt le pays au cours des décennies précédentes. C'est-à-dire ça parcourt à peu près tout le 19e siècle. L'esclavage est vraiment la toile de fond de la discorde qui monte entre les États du Nord et du Sud. Mais au-delà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des intérêts d'une part économiques qui sont liés à l'esclavage et qui sont liés aussi à la situation même des différents États. Et puis il y a une question de j'allais dire presque de civilisation, c'est-à-dire que le Nord et le Sud prennent des trajectoires totalement divergentes, enfin ou en tout cas de plus en plus divergentes, et au fil des décennies parviennent à rester relativement soudés grâce à un certain nombre de compromis, mais on sent bien qu'effectivement il y a deux peuples finalement qui sont en train de diverger fortement à tous les niveaux. Donc l'esclavage constitue la toile de fond de ce conflit, la toile de fond de cette crise, sans l'englober entièrement. C'est-à-dire que c'est la cause nécessaire mais non suffisante pour expliquer la guerre civile.
Parce qu'on a un Sud qui est plutôt agricole et un Nord qui est plutôt industrialisé.
Alors, pour faire simple, oui, disons que le Nord est en train de s'industrialiser à l'époque de la guerre de Sécession. Faut pas exagérer non plus le phénomène. C'est encore une, il y a de vastes pans du Nord qui sont encore très ruraux. Hein. Si on prend tout le Midwest, l'Ohio, l'Indiana, le Missouri, ce sont des régions encore quasiment pionnières pour certaines. Donc le Nord est en train de s'industrialiser, donc forcément à des intérêts manufacturiers qui incitent à un certain protectionnisme vis-à-vis de, en particulier des biens produits en Europe, et le Sud lui doit sa richesse aux cultures de rapport et en particulier le coton qui prend une place absolument prépondérante au fil des décennies à cette époque dans son économie, qui ne peut être cultivé que dans le Sud et qui réclame une main-d'œuvre importante et de préférence captive, puisque c'est une des raisons pour lesquelles le Sud s'accroche autant à l'esclavage, c'est pour cultiver le coton et pour l'exporter, ce qui crée aussi une dynamique assez assez libre-échangiste. Donc, encore une fois, on a l'esclavage en toile de fond de cette différenciation économique entre le Nord et le Sud.
Alors, il y a l'événement déclencheur, les élections de 1860 et l'élection de Lincoln. Vous montrez dans votre ouvrage que le conflit couvait depuis longtemps et placé. C'est l'élément déclencheur, mais qu'en réalité, la tension était extrêmement forte entre les différents États.
Oui, absolument. Alors, le Nord et le Sud forment pas deux blocs monolithiques. Hein. Il y a au milieu de ça ce qu'on appelle les border states, qui sont à la fois un ciment et une ligne frontière, j'allais dire, entre les deux mondes. Et les crises successives qu'ont connues les États-Unis. Il y a déjà eu un compromis en 1820, qu'on a appelé le compromis du Missouri, pour déterminer l'expansion possible de l'esclavage. Il y a eu un autre compromis en 1850, au moment où la Californie et tout l'ouest en fait du continent a été absorbé par les États-Unis, et tout au long des années 1850, la question de l'esclavage monte. On échappe une première fois à une crise en 1857, lorsque est élu le président Buchanan, qui est un modéré et un attentiste, qui permet donc de différer un petit peu la crise entre les deux parties. Et c'est finalement l'élection de 1860 qui rompt véritablement le charme, j'allais dire, qui tenait encore soudé les deux parties du pays et qui apparaît pour certains sudistes les plus intransigeants comme une véritable déclaration de guerre.
Alors, quel est l'état de l'armée américaine à l'époque, puisqu'on va parler de guerre? Aujourd'hui, évidemment, quand on pense aux États-Unis, on pense à la première armée du monde et ils ont des moyens techniques extrêmement importants. Mais à l'époque, quel est l'état réel de cette armée, sachant qu'elle a commencé à affronter, alors il y a eu les populations indiennes, mais elle n'a pas eu encore à faire de très grands conflits?
Alors, il y a eu plusieurs guerres importantes, à commencer par la guerre d'indépendance, évidemment, même si elle est particulière. Il y a eu la guerre de 1812 contre l'Angleterre et la guerre contre le Mexique de 1846, qui ont à chaque fois mobilisé plusieurs dizaines de milliers de volontaires. Mais une des caractéristiques des États-Unis, des jeunes États-Unis, c'est d'avoir une armée régulière extrêmement limitée, pour ne pas dire indigente, qui doit être de l'ordre de 7000 hommes dans la première partie du siècle et qui monte, au moment de la guerre de Sécession, elle ne dépasse pas 15000 hommes, qui sont formés en quelques régiments, qui en plus sont dispersés sur des territoires immenses, puisqu'ils servent essentiellement à surveiller les territoires nouvellement colonisés, à faire la chasse aux Indiens dans un certain nombre de régions, ou en tout cas à les surveiller, et à assurer la colonisation de la Californie, de l'Oregon. Donc ce qui fait que non seulement cette armée est minuscule, mais qu'en plus elle est totalement dispersée, et ne reste sur les territoires de l'Est où va éclater la guerre, que quelques compagnies d'artilleurs pour défendre les forts et une poignée de Marines à Annapolis, mais ça c'est vraiment vraiment rien du tout.
Ce qui veut dire qu'en fait on aurait une armée à deux vitesses, une armée nationale et puis des armées dans chacun des États.
Alors c'est un principe de même un des principes fondateurs des États-Unis, c'est qu'effectivement la portion fédérale donc de ce qu'on appelle l'armée fédérale est très faible, mais elle se double en cas de danger ou en cas de conflit d'un système de milices qui existent dans les différents États et qui sont tenus alors en 1860, ça dépend des États. Certains États maintiennent quelques milliers de miliciens à peu près entraînés et à peu près organisés, mais dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui est totalement tombé en déshérence et qui ne sert quasiment plus. Et en temps de guerre, comme pour le Mexique en 1846, on fait simplement un appel à volontaires et en général, les volontaires se présentent par milliers et c'est comme ça qu'est constituée une armée provisoire le temps du conflit.
Et cette armée, elle est comment d'un point de vue de l'équipement ou d'un point de vue de la pensée stratégique? Par exemple, les officiers, est-ce qu'il y a des écoles pour les former comme on a aujourd'hui au West Point?
Alors justement, en 1860, West Point est déjà la grande école militaire du pays. Alors il y en a quelques autres secondaires au niveau des États, particulièrement dans le Sud, mais la véritable école qui forme les officiers professionnels, c'est West Point, et qui a la particularité d'être avant tout une école d'ingénieurs militaires finalement. C'est-à-dire qu'elle met beaucoup l'accent sur la topographie, toutes les questions de fortification et ça a une raison aussi profonde qui est liée à la naissance du pays, c'est que les officiers de l'armée américaine sont censés participer aussi au développement des infrastructures dans les nouveaux territoires. Donc on a une poignée d'officiers, il y a quelques centaines d'officiers entre ceux qui sont à West Point, ceux qui sont dans l'armée et ceux qui ont pris leur retraite ou qui ont quitté l'armée au bout de quelques années. Donc on a quelques centaines d'officiers professionnels formés.
Alors venons-en au conflit proprement dit. La guerre est finalement courte, 4 ans, mais elle est très meurtrière. Ça demeure d'ailleurs encore aujourd'hui la guerre durant laquelle les États-Unis ont perdu le plus d'hommes. Pourquoi est-ce qu'on a cette guerre qui est aussi meurtrière? C'est dû à la stratégie, c'est dû au fait que ce soit une guerre civile, justement?
Alors bon, quand on dit qu'elle est courte, on peut au contraire penser qu'elle est assez longue pour l'époque, puisqu'en général, les guerres, si on prend l'exemple des guerres européennes, y compris les guerres napoléoniennes qui se prolongent pendant des années, mais qui sont finalement constituées d'une succession de campagnes, là, on a une guerre en continu entre deux adversaires bien définis, qui se font face le long d'une frontière mouvante, pendant 4 années. Donc, c'est déjà un conflit, assez particulier de ce point de vue-là. Et alors, pourquoi autant de morts? Parce que justement, c'est un conflit, long et continu, qu'il y a à cette époque beaucoup de morts par maladie et par épidémie, avec des conditions sanitaires qui sont assez déplorables, surtout en particulier dans le sud, où on va avoir de véritables hécatombes. Il meurt 2 fois plus d'hommes pendant cette guerre, du fait des maladies que du fait des combats, proprement dit. Et également avec l'amélioration des armements, on est entre deux mondes. On est à cette époque-là entre la période napoléonienne, classique, j'allais dire, et les armements qu'on verra apparaître à la fin du 19e et au début du 20e, qui vont être ceux de la Première Guerre mondiale. On a déjà des fusils rayés qui tirent 2 fois plus loin que les mousquets, les mousquets à silex napoléoniens. On a une artillerie de plus en plus précise qui commence à tirer des obus. On a des fortifications de campagne qui sont de plus en plus élaborées. On a les premiers cuirassés. On a même les premières mitrailleuses, même si elles jouent dans le conflit un rôle très limité. Et donc on a une puissance de feu qui n'est pas encore celle, évidemment, de la Première Guerre mondiale. On en est encore loin, mais qui commence à s'en approcher. Et cette puissance de feu, finalement, l'infanterie qui se comporte encore, qui était encore dirigée comme elle l'était du temps de Napoléon, plus ou moins, et ben se heurte à un mur de feu de plus en plus meurtrier.
Souvent, on dit que c'est la première guerre de l'époque moderne. Est-ce que cette expression vous paraît juste?
Alors c'est voilà, ça rejoint ce que je disais juste avant. C'est à la fois juste et exagéré, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus comparer la puissance de feu des armements de l'époque, ni même les tactiques et les problématiques de la Première Guerre mondiale. Faut pas les plaquer à la guerre de Sécession, mais il n'empêche qu'on n'est plus non plus dans l'ère napoléonienne. Donc on est entre deux mondes. On est à l'époque d'une transition militaire très importante et qui se double, contrairement par exemple à la guerre de 70, qui est assez brève, qui dure quelques mois en France. Là, on est en plus sur un conflit long et à une échelle continentale. C'est pour ça qu'on est à la fois sur le dernier conflit archaïque, j'allais dire, du 19e siècle, et le premier conflit moderne qui prépare ceux du 20e siècle.
Alors, vous avez dit aussi que le Sud vivait essentiellement des exportations, notamment du coton, et donc on voit le Nord qui met en place un blocus des côtes grâce à une marine assez performante, dont ça rappelle un peu Napoléon et son blocus continental.
Oui.
Est-ce que ça a été efficace, cette stratégie de l'étouffement, en quelque sorte?
Alors oui et non. Disons, ça a été efficace à long terme, mais ça commence très difficilement parce qu'en fait la marine américaine est à peu près aussi indigente que son armée. Hein. Elle compte quelques dizaines de navires qui sont armés en guerre et de différentes tailles. Et il faut bloquer des milliers de kilomètres de côte avec des centaines de, alors quelques grands ports et à côté de ça des ports secondaires, des havres où peuvent venir mouiller des petits forceurs de blocus rapides qui sont employés par le Sud pour faire des importations d'armement, de biens de consommation, de biens de luxe. Donc c'est à la fois très efficace, mais uniquement sur le long terme. Au début, le blocus est à peine plus que symbolique. Mais non seulement la marine américaine va monter en puissance de manière absolument extraordinaire, puisqu'à la fin de la guerre, il y a plusieurs centaines de navires, de l'ordre de 700, je crois, 750 navires qui assurent le blocus. Et ça se double par un certain nombre d'opérations amphibies qui sont menées sur les côtes du Sud et qui petit à petit vont soit capturer, soit fermer à la navigation les ports de commerce du Sud et donc petit à petit étouffer les importations. Donc oui, c'est une stratégie qui fonctionne, mais elle va mettre du temps à être efficace.
Alors une des batailles peut-être les plus connues, c'est celle de Gettysburg. Est-ce que c'est une bataille essentielle dans cette guerre, justement, du fait aujourd'hui du fait qu'elle soit restée dans les mémoires?
Alors, elle est essentielle dans le sens où elle est symboliquement très forte. C'est la seule grande bataille rangée qui se déroule sur le territoire proprement dit du Nord, c'est-à-dire du Nord libre, c'est en Pennsylvanie, et elle marque un coup d'arrêt à la plus grande offensive sudiste de la guerre. Elle n'est pas décisive en soi parce qu'elle ne change en rien des grands équilibres précédents. Elle se double d'ailleurs du siège de Vicksburg à plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest, qui est plus déterminant dans l'issue de la guerre finalement. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler une bataille décisive, mais c'est une bataille hautement symbolique. Et d'autant plus qu'elle est extrêmement meurtrière parce qu'elle se dispute sur 3 jours et qu'elle fait plus de 50 000 victimes, morts, blessés et prisonniers. Et donc elle est effectivement restée dans la mémoire américaine jusqu'à aujourd'hui comme le pinacle. À une époque, maintenant ces termes-là sont moins dans l'air du temps, mais on a parlé du test de virilité ultime de la nation américaine, avec la fine fleur des forces du Sud et des forces du Nord s'affrontant pendant 3 jours sur le champ de bataille de Gettysburg.
Et puis une autre bataille qui est restée dans les mémoires, c'est celle de la prise d'Atlanta, avec l'incendie d'Atlanta. Ça aussi, ça a été un élément majeur de cette guerre.
Alors, pour une toute autre raison, c'est que le contexte de l'été 1864, on peut imaginer, comme on est proche de la fin de la guerre, on peut imaginer que la messe est dite et que la Confédération agonise. En réalité, c'est peut-être la période où le Nord doute le plus. 1864, c'est une année d'élection, et Abraham Lincoln, à ce moment-là, est certain de ne pas être élu. Parce que ces armées piétinent, parce que le nombre de morts monte en flèche et que finalement la nation américaine gronde de plus en plus face au flot de sang qu'on exige d'elle pour mater la Confédération. Et donc la prise d'Atlanta est importante dans le sens où elle vient rompre cette espèce de statu quo, cette espèce d'impasse finalement dans le conflit, et c'est un des facteurs déterminants qui va permettre la réélection de Lincoln. C'est le général Sherman qui, après avoir piétiné pendant des mois, réussit à débloquer la situation devant Atlanta, qui est un nœud de communication, un nœud ferroviaire très important de Géorgie. Et le fait que cette ville d'Atlanta tombe à ce moment-là est un facteur important du déblocage de la situation et donc finalement de la victoire finale. Et ça se double aussi du symbole, alors que tout le monde a vu, ou beaucoup de gens ont vu Autant n'importe le vent, avec son côté très très sud romantique, mais il n'empêche que cette image d'Atlanta en flamme est un petit peu aussi le symbole de la Confédération qui va s'effondrer dans les quelques mois qui suivent.
Alors, vous l'avez dit, la guerre se terminant en 1865, en 64, on peut penser que les choses sont faites, mais quand on lit les événements, quand on connaît la fin, évidemment, on a toujours une perception un petit peu erronée. Est-ce qu'il était logique et normal que le Nord gagne et que le Sud soit vaincu? C'est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages qui s'intitulait Le Sud pouvait-il gagner la guerre de sécession? Est-ce que le Sud pouvait gagner cette guerre?
Alors, ce genre de question, il est très difficile d'y répondre parce que tout dépend ce que signifie gagner une guerre. Si c'est vaincre sur le champ de bataille d'égal à égal les armées du Nord, le Sud n'en avait pas les moyens parce qu'il avait moins d'hommes, il avait moins de moyens militaires, moins d'armement. Donc une guerre du fort au fort, j'allais dire, était ingagnable. Et d'ailleurs, le Sud a fini par perdre parce qu'il a fini par perdre. C'est une guerre d'usure contre le Nord, malgré un certain nombre de victoires remportées sur le champ de bataille. Au bout du compte, il n'avait plus ni hommes ni volonté de combattre, donc il a fini par perdre à cause de ça. En revanche, ce que le Sud pouvait espérer et a espéré assez longtemps, c'est de porter des coups suffisamment forts pour décourager le Nord, en particulier au travers de son opinion publique. Je répète encore une fois, en 1864, l'élection de Lincoln n'est pas du tout gagnée d'avance, et ses opposants démocrates sont non pas pacifistes, hein, ils n'auraient pas fait la paix immédiatement avec les confédérés, mais en tout cas étaient moins susceptibles d'aller jusqu'au bout des choses pour remporter le conflit à tout prix. Donc il y avait des possibilités d'éventuellement entrer dans des négociations et de laisser espérer au Sud une issue favorable. Ce que le Sud va espérer aussi pendant très longtemps, c'est une intervention européenne en sa faveur, c'est-à-dire de la France ou de l'Angleterre, dont les flottes auraient pu venir dégager le blocus dont on a parlé tout à l'heure. Donc cet espoir-là va être diversement entretenu quasiment jusqu'à la fin. C'est vraiment que dans la toute fin 1864, début 1865, que les derniers espoirs sudistes de pouvoir forcer le Nord à un compromis quel qu'il soit va vraiment disparaître.
Pourquoi est-ce que les Européens, notamment les Français et les Anglais, ne sont pas intervenus côté du Sud, justement? C'est sur la question de l'esclavage, leur opposition à l'esclavage, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons?
Alors, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire qu'on a, pour faire très simple là aussi, on a des chancelleries et des aristocraties européennes qui sont plutôt favorables au Sud, ne serait-ce que parce que c'est une nation concurrente qui est en train de croître très vite et qui fait un petit peu peur, ou en tout cas qui inquiète un petit peu. Donc du côté de Napoléon III, comme du gouvernement anglais, on serait pas totalement hostile à une partition du pays, mais les opinions publiques, que ce soit en France ou en Angleterre, sont au contraire très violemment hostiles au Sud. Et la raison essentielle en est effectivement l'esclavage, qui est moralement, qui paraît moralement indéfendable. Donc indirectement, oui, c'est largement la question de l'esclavage qui va empêcher les pays européens de s'y intéresser. Ce qui aurait pu faire en cascade d'ailleurs un conflit de bien plus grande ampleur, puisque la Russie, elle, était plutôt prête à jouer la carte de l'Union. Donc on pourrait avoir en cascade un conflit de grande ampleur, y compris en Europe.
Il y a un autre sujet stratégique dans cette guerre, c'est celle du ravitaillement, et notamment le rôle du rail et le rôle du Mississippi, puisque le Mississippi est ce grand fleuve qui permet d'alimenter les États. Est-ce que ça a été un sujet pendant cette guerre que de prendre le contrôle du Mississippi, ou du moins des principaux ports du Mississippi?
Alors, non seulement ça a été un sujet, mais ça a été un des sujets principaux. Le premier plan, en tout cas la première idée stratégique du Nord au tout début de la guerre, c'est... Parce qu'on sait pas tellement comment envahir le Sud. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le Sud, l'un des grands atouts du Sud, c'est d'être sur la défensive et de représenter un immense territoire qui est très difficile d'envahir, finalement. Et donc l'un des premiers projets du Nord est d'établir un blocus sur les côtes et de prendre le contrôle du Mississippi, qui est la grande artère nourricière. On appelle le père des eaux, cet immense fleuve du centre des États-Unis. Et donc ça va donner lieu à de très très nombreux affrontements. Et le contrôle du Mississippi est pris à l'été 1863 par la victoire du général Grant à Vicksburg, et qui permet de verrouiller véritablement le fleuve et de couper la Confédération en deux, finalement, ce qui va lui poser d'énormes problèmes, même si c'est pas non plus une condamnation à mort, puisque la Confédération va continuer à se battre pendant un an et demi. Mais c'est un des enjeux absolument essentiels et qui est perçu comme tel dès le début de la guerre, oui.
Et la question du ravitaillement, notamment en armes, où est-ce qu'ils achètent ces armes dont ils ont besoin, ou est-ce qu'ils les produisent par eux-mêmes?
Alors au début, il y a de toute façon une production nationale, mais qui est assez faible. Les arsenaux, en particulier les arsenaux, non seulement fédéraux, mais les arsenaux de chaque État sont remplis de milliers de vieux fusils souvent des mousquets qui datent de 1812, la guerre de 1812, ou des vieux mousquets à silex. Bon. Donc il y a de quoi armer les soldats, même si on les arme mal au début. Et petit à petit, via les importations depuis l'Europe, parce que les deux camps opèrent un certain nombre d'importations, et puis via la production nationale, alors surtout au nord, mais aussi au sud, hein, qui établit un certain nombre de d'armureries. On produit, même en 1865, on produit encore 50 000 fusils par an dans le sud, soit production pure, soit par réparation d'armes endommagées. Et donc par ces différents biais-là, bah, les armements de plus en plus modernes vont être entre les mains des soldats. Le sud, par exemple, ne manque jamais vraiment d'armes. Il va manquer de poudre à certains moments, il va manquer de vivres beaucoup, mais il arrive à établir une proto-industrie de guerre qui lui permet de produire finalement, non pas en abondance, mais en suffisance pour ses troupes.
Et comment est-ce que le Sud est vaincu, ou à quel moment ils lèvent le drapeau blanc et ils vont constater leur défaite et donc aboutir à la fin de la guerre?
Alors ça s'établit progressivement au cours de l'année 1865, où tous les barrages sautent les uns après les autres. Mais disons que l'événement saillant, c'est véritablement la chute de Petersburg, qui est la ville qui est au sud de Richmond, la capitale. C'est-à-dire, les deux villes sont assiégées entre l'été 1864 et le printemps 65. Et c'est le général Lee qui tient à bout de bras tous les espoirs de la Confédération en résistant à Petersburg. Et lorsqu'il s'effondre, son armée s'effondre en avril 1865, et après une poursuite de quelques jours, il est obligé de capituler devant le général Grant à Appomattox. Et là, c'est la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun espoir. Toutes les armées qui restent encore en armes dans le pays vont capituler les unes après les autres. Donc c'est l'élément déclencheur qui survient à un moment où le Sud est vraiment à bout totalement de ressources.
Et comment est-ce qu'est négociée ensuite la fin de la guerre? C'est-à-dire que il faut opérer la réconciliation? Est-ce qu'on va punir l'adversaire? Qu'est-ce qu'on fait des généraux également qui ont combattu dans le camp de la Confédération?
Il y a différentes options. Au nord, ce qu'on appelle les républicains radicaux voudraient punir le Sud véritablement de sa rébellion, le punir au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire non seulement le ruiner, ce qui advient de toute façon, et punir ses principaux chefs. Lincoln était sur une ligne beaucoup plus modérée, c'est-à-dire il souhaitait amorcer déjà la réunification du pays dès l'origine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il, en accord avec Grant, les conditions de capitulation des différentes armées sont très magnanimes finalement. Quand Lee se rend à Appomattox, on n'humilie pas ses hommes, on leur permet de rentrer chez eux, ils sont ce qu'on appelle libérés sur parole, contre leur promesse de ne pas reprendre les armes, on leur laisse leurs chevaux quand ils en avaient, les officiers peuvent garder leurs armes. Donc on est déjà dans une perspective de réconciliation nationale, et c'est cette ligne-là qui finalement va plus ou moins s'imposer avec le remplaçant de Lincoln, parce que Lincoln est assassiné quelques jours après Appomattox, et son successeur est un démocrate qui s'est rallié aux républicains au début de la guerre, mais c'est un sudiste. Et il en veut à l'aristocratie, mais pas au peuple du Sud, donc il va jouer une carte justement de modération dans la période qui va suivre. Et c'est une période compliquée. Mon livre s'arrête à la fin de la guerre, justement parce que la période ultérieure dite de reconstruction est extrêmement complexe, où on est finalement entre deux logiques, c'est-à-dire l'émancipation des populations noires et leur admission dans la citoyenneté, et donc l'irruption de leur rôle politique dans les États du Sud, et la volonté de l'ancien monde, j'allais dire blanc, de reprendre le contrôle. Et c'est ce heurt entre ces deux conceptions qui vont finir par aboutir en 1876 à un compromis entre le Nord et le Sud, où finalement la question noire redevient secondaire par rapport à celle de la réadmission des États. Donc si on peut dire, encore une fois, j'essaie de résumer en direct un problème très complexe, mais si on peut résumer, on pourrait dire que le Nord et le Sud ont fini par se réconcilier sur le dos des Noirs finalement.
Eh bien, nous poursuivrons nos échanges la semaine prochaine pour rentrer dans d'autres aspects de cette guerre qui est ô combien complexe et ô combien importante aussi pour l'histoire des États-Unis. Merci en tout cas beaucoup, Vincent Bernard, de nous avoir présenté en résumé cette guerre de sécession, dont je rappelle le titre de votre ouvrage récent, « La guerre de sécession, la grande guerre américaine », qui est paru aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.